jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau.
Chanter comme cent dix mille oiseaux, qu'aurait la gorge en sang, à force de gueuler, gueuler même des conneries, mais avec quelle allure, t'étais un con de génie, t'étais un con de génie. T'avais un nom d'oiseau et la voix d'Attila, on t'entendait d'ici, on t'écoutait de là-bas, t'étais à toi toute seule, le bal des petits lits noirs, un Wagner de carrefour, un bailleur de trottoir. Un bailleur de trottoir ayant V dans tes mains comme une bénédiction, et comme tu t'en servais pour bénir tous ces cons gentils émus qu'on appelle les gens, qui devenant public deviennent intelligents. C'est pas toujours le cas, bien sûr, même à Paris, les auteurs de la merde, il faut que ça mange aussi. Toi, tu t'es débrouillé pour passer au travers, t'aurais chanté François comme de la Polinaire, comme de la Polinaire. On t'a pas remplacé, bien qu'on ait mis le paquet, le pognon est en nombre, ils peuvent pas s'expliquer, sous les proches au miracle et sous la lampe à arc, quoi que pense et que dise et que fasse Monsieur Stark, et que fasse Monsieur Stark.
Les langues sont les miroirs de l'histoire sociale. Chacune porte en son sein un charnier de vaincus. La langue française puise sa vie aux artères des anciennes provinces. Elle boit et mange tous leurs patois et dialectes locaux. Son triomphe fut celui des seigneurs jadis. Il est aujourd'hui celui des grands bourgeois qui leur succèdent. Des savants, des artistes eux-mêmes voient dans la prédominance d'une langue sur une autre un triomphe de la civilisation. C'est au contraire le plus accablant témoignage de barbarie. Une langue exprime une conscience. Chacun de nous a une langue à soi qu'il est seul à comprendre. les langues des pauvres gens. Les détruire, c'est abattre leurs chaumières et les ensevelir sous les décombres. Ah, vous cultivez, multipliez des races d'animaux et de légumes, et vous en variez les espèces. Vos conseils généraux votent 4000 francs de crédit pour la race bretonne pinoire, et vos sociétés canines 3000 francs pour l'épagneul breton. Mais voterez-vous jamais un liard pour l'élève et l'entretien de la conscience et de l'expression bretonne? Imbécile, qui vous acharnez à détruire des races d'hommes et des langues humaines, ignorez-vous donc que la beauté est nombre et non votre chiffre 1 planté dans le ventre d'un zéro comme un poteau frontière dans une mer de sang?
Notre chambre, nous n'avions qu'un lit tout estropié pour nous étendre.
Radio Libertaire 89.4 F. La voix de la Fédération anarchiste.
Bonjour à toutes et à tous. Un petit impondérable, notre ami Fred s'est retrouvé avec ses clés coincées dans le barillet. Je ne veux pas savoir ce que ça signifie. Il est donc 17h06, nous sommes le mercredi 12 juin 2024 et nous vous retrouvons en direct 1h30 pour parler de livres échangés, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Agnès, Dominique, Francis et notre invitée Isabelle Felici pour parler du livre « Anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale, 1860-1920 », publié aux éditions Atelier de création libertaire, tout récemment, en 2024. Au titre des annonces, je souhaiterais préciser qu'il va y avoir tout d'abord le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin, comme d'habitude, une fête du livre, 8 impasse Crozatier dans le 12e arrondissement. Vous y retrouverez des livres neufs et d'occasion, des BD, des romans, des livres politiques, d'histoire, etc. Allez-y, 10h, 18h, 11h, 16h, c'est le samedi 15 et le dimanche 16. Et puis, du mercredi 19 juin au dimanche 23 juin, le marché de la poésie qui se trouve à Saint-Sulpice, comme d'habitude, devant la dite église Saint-Sulpice, Paris 6e. Un certain nombre de nos amis poètes seront présents. En plus de nous écouter, n'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, librairie Publico, 145 rue Amelot. Mais vous pouvez aussi utiliser le blog du groupe Commune de Paris. Il suffit de cliquer sur « Contact » sous la banderole dessinée par notre ami Tardy. Au programme de cette émission, eh bien, tout d'abord un catalogue, une exposition. L'exposition « Jean et Lyon », Agnès, la prose du monde, Jean et Lyon.
Absolument. L'exposition Jean et Lyon, qui est née en 1904 et décédée en 1987, cette exposition est au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 18 août 2024. Et il existe un très beau catalogue du Musée d'Art Moderne de Paris à cet effet.
Alors, il a une histoire, ce monsieur Jean et Lyon. Il est connu, pas connu, qui... J'ai l'impression que ça remonte à loin, maintenant.
Alors, la dernière exposition consacrée à Jean et Lyon remonte à 2004, au centre Georges Pompidou. Jean et Lyon habitait Montmartre, son foyer anarchiste, réalisant affiches et gravures contre la justice assez impressionniste, et de nombreuses illustrations dans la presse. Il exposait alors ses toiles aux Croûtes de Montmartre.
Les Croûtes de Montmartre.
Oui, ça se trouvait à cette époque-là sur la place Constantin-Pécaire.
D'accord.
Puis, petit à petit, ces expositions se sont déplacées un petit peu partout. Et ont gardé le même nom, même en province, en fait.
Mmh. Alors, il va rencontrer de nombreux peintres.
Voilà, en 1920 en particulier, sous l'influence de Joaquim Torres Garcia. Puis de Mondrian, il se passionnera pour la peinture abstraite et déménagera donc à Montparnasse pour se rapprocher de ces artistes-là, mais aussi Calder et d'autres, ainsi que son marchand Pierre Bine.
Alors, il a des toiles qui sont assez magiques, semble-t-il.
Et qui ont été remarquées par de brillantes personnes, dont Brigitte Lel, qui est conservatrice de musée et spécialiste dans le cubisme, qui dit en fait de ces toiles qu'elles sont un univers balancé entre masse et ligne, comme sur un champ magnétique et dynamique. Mmh. Jean Hillion, après, partira aux États-Unis. Il y jouera un rôle majeur dans l'introduction de l'abstraction, aux côtés de Marcel Duchamp. Il participera à la création d'une nouvelle revue, Abstraction Création, qui rassemblait tous les peintres abstraits d'Europe. Sa culture artistique ne laissera pas indifférent, comme son intérêt pour Poussin, Seurat. Et avec Marcel Duchamp, ils deviendront conseillers pour l'achat d'œuvres d'art auprès d'un collectionneur américain, M. Galatin.
Donc, alors, il va y avoir quelque chose, je crois, dans les années 34.
Et
30,
voilà, ouais. Ce milieu artistique sera ébranlé par les événements en Ukraine, tiens déjà, en Russie, en Espagne, tous ses amis seront aussi tués par Staline, l'ascension d'Hitler et la guerre en Espagne. Vous lirez les détails passionnants dans le catalogue. Puis,
entre, alors, il va faire la guerre
Oui, entre 1940 et 1942, il partira au conflit. Et sera fait prisonnier en Allemagne. Il écrira le récit de sa captivité, qui deviendra d'ailleurs un best-seller. En 1943, on en reparlera d'ailleurs. Son œuvre deviendra moins géométrique, très graphique, telle une bande dessinée, mais on y devinera bien des silhouettes. Et ce passage intermédiaire ne sera pas salué par les Américains, qui qualifièrent ce retour un peu figuratif à un retour en arrière. Il obtiendra un meilleur accueil à son retour en France, tout d'abord de ses fidèles amis, comme Francis Ponge, André Duboucher.
Des témoignages ?
Oui, Fabrice Ergot dira de son œuvre que l'artiste donne aux objets les plus simples une présence si monumentale qu'elle en devient fascinante après avoir été si souvent décourageante. Le témoignage du directeur du musée dans ce catalogue est très émouvant tant il a d'admiration pour cet artiste. Il écrira d'ailleurs que la peinture de Jean Hillion est la prose du monde.
Ah, d'où le titre.
Voilà, tout, c'est ça. Henri-Claude Cousseau dira, lui, que le langage d'Hillion dans sa peinture est théâtral. Les éléments les plus ordinaires de la vie, comme des marches d'escalier, un banc, une fenêtre, prennent un aspect scénique, un peu comme Fernand Léger. Cette nouvelle forme de réalisme qu'on associe au pop art, d'ailleurs. Parisien dans l'âme, Elliot fera de la capitale le sujet de bon nombre de ses toiles, du café à la brasserie, ou bien près du métro, en passant par les images populaires de l'époque. Et en 1946, il déménagera rue Michelet, dans le 6e arrondissement parisien, se remariera et, comme il le dira, veut revenir à l'homme. Il s'investira dans son idéal politique communiste. Et c'est là qu'il réalisera ses quelques grands triptyques et fera de grandes rencontres littéraires et artistiques. Et après une période un peu terne, sa notoriété reprendra après, dans les années 1960 et 1970.
Alors, il a une culture assez forte.
Jean Hillion était passionné par l'art et les artistes du passé, comme Poussin, je l'ai dit, mais aussi Raphaël. Sa culture était remarquable en ces domaines et il s'en servait dans la construction de ses œuvres, tout en gardant le recul qu'il souhaitait, écrit François-René Martin. Il fréquentait aussi des écrivains et des poètes, comme Raymond Queneau, André Breton, Francis Ponge. Il a du reste aussi produit de nombreux écrits de grande qualité littéraire. Ses écrits très nombreux sont conservés grâce à des dons à la BNF, comme le souligne Céline Chicha-Castex. 5000 croquis ont été aussi recensés. Il a publié, entre autres, donc le récit de sa captivité en Allemagne. Le livre s'intitule « They shall not have me ». Et composé une fois aveugle, 3 écrits retraçant sa vie de peintre, dont un courrier autobiographique que je vous présenterai du reste. Lire et Lyon, c'est replacer son travail dans un cadre qui dépasse même la peinture, écrit-il. Enfin, je voulais vous parler de cette toile gigantesque, une de ses toiles les plus iconiques. Chose vue en mai, mettant en avant les événements de mai 1968 qui l'émouvaient. Une composition de 275 sur 875 centimètres. Colossale.
Alors, c'est en mai 68, alors.
Tout à fait. Au centre, il y a 3 grands drapeaux noirs portés par des hommes. Sur le panneau de gauche, 3 groupes de personnages, un portant des pavés, l'autre des banderoles. Et le panneau de droite représente une masse compacte de personnes sous la pluie. On y note la présence de gendarmes et de flammes en arrière d'un panneau à l'autre. Cela représente les événements des 3 et 10 mai avec leurs barricades et leurs banderoles. On se rappelle une jeune anarchiste perchée sur les épaules d'un gars et le retour de la marche gaulliste en soutien au gouvernement.
Oui. Alors, donc une exposition qui mérite d'être vue. Alors, c'est
absolument
ça.
À ne pas manquer. Je vous en rappelle l'adresse, c'est au Musée d'Art Moderne, l'exposition Jean et Lyon, 1904-1987, La prose du monde. Le catalogue est produit par le Musée d'Art Moderne de Paris, et c'est jusqu'au 18 août 2024.
Très
bonne
bien.
Expo.
Merci. Alors Jean et Lyon a écrit un livre, Pour qui travaille-t-on ? Et alors... On va, vu qu'on a du retard, on voulait passer la gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie. On va directement présenter ce livre, édité aux éditions Clairpoyant. Est-ce que tu peux nous exposer le contenu de ce livre ? De quoi parle-t-on ? D'abord, c'est une lettre, je crois, adressée à André Dubouchet.
C'est ça. Et comme je l'ai déjà indiqué, Jean et Lyon a toujours écrit de nombreux carnets et n'a eu de cesse de répéter l'importance de cette démarche d'écriture avant de peindre. Ce livre est effectivement à l'origine une lettre au poète André Dubouchet, commencée à être écrite en 1952, puis reprise en 1963. André Dubouchet ne lira jamais ce courrier et ne saura même pas qu'il a existé. Et Jean et Lyon aborde essentiellement des personnes qui l'ont soutenu dans sa carrière, de ses rencontres formidables, de sa déception envers le communisme, la guerre, etc. Ce courrier est comme une autobiographie. Du communisme, il était ébloui par l'esprit de la révolution et la grandeur de ses promesses.
Et oui, comme beaucoup qui, dans ces années-là, ont cru qu'une lumière se levait à l'Est, et puis ben, il va revenir de son voyage en
oui,
URSS.
Oui, il était fort enthousiaste. Et lors d'un meeting en 1926, il rencontrera et hébergera un peintre uruguayen, Torres Garcia, qui le formera à l'art abstrait. C'est ainsi qu'il découvrira le cubisme et créera un groupe art concret en 1930. Puis sa rencontre avec Mondrian sera un grand tournant dans sa carrière. Sincère et bon, c'est l'une des plus belles figures d'artistes que j'ai rencontrées, dit-il. Il côtoiera ainsi Jean Harpe de
Jean Harpe qui résidait à Clamart, me semble-t-il.
Oui, c'est
ça.
Nous.
Eh bien, je crois qu'il y a Delaunay.
Delaunay, Calder, Max Ernst. Et Giacometti, que j'ai un peu oublié, qui s'intéresseront à son travail, mais sans grande conviction en fait. La rencontre avec Albert Gallatin le sortira de son marasme. Il retrouvera en lui une personne cultivée et un fin collectionneur de tableaux cubistes et abstraits qui expose aux États-Unis. Il profitera grâce à lui pour faire quelques voyages du reste en Angleterre et en Suisse. Il participera à des associations comme Abstraction Création, créée par le peintre Herbin, dont nous avons parlé lors de l'émission du 22 mai dernier.
Ah oui.
Mais aussi, à l'AEAR, une association d'artistes révolutionnaires de styles divers. Mais tous ces échanges le décevront, soit parce que superficiel, selon lui, soit par manque d'intérêt. Bref, Jean Hillion partira aux États-Unis en 1936. Il ressentit alors un changement dans son travail qui est défini comme le visage de l'homme. Et de cette période tourmentée, il travaillera beaucoup, même dans la nature. Il se détachera du communisme et, inquiet pour l'Europe en guerre contre le fascisme, décidera de rentrer en France et de s'engager sur le front. Il y sera fait prisonnier rapidement et envoyé en Poméranie. Il gardera de cette période un profond attachement pour les hommes avec qui il était et dont il était l'interprète. Quand je m'évadais de Stettin, un soir qui neigeait, je me sentais portée par leur tendresse, leur bienveillance, leur fierté. Cela dure encore un peu en moi, comme une chaleur. À son retour aux États-Unis, sa peinture déçoit le public qui ne retrouve pas dans ses toiles plus figuratives le Hillion du passé. Il est même rejeté par les artistes à son retour en France avec sa nouvelle compagne, Pegen Weil. Et après une dépression et une remise en question, sa peinture s'affirmera en figuratif. Henri Michaux la qualifiera d'isme. Cette longue quête de 3 ans est une grande nouveauté. Il s'intéresse davantage à la critique, reconnaissant que son public, sans son public, il n'est rien.
Oui, il y a donc une évolution, là.
Voilà. Il reprend le moral. Il m'aide, dit-il, sans le savoir, à faire le point et à m'affirmer. Hillion est particulièrement bouleversant dans ses paragraphes où il évoque ses amis tels que Raymond Queneau, Francis Ponge, René Char. Quand il écrit son appréhension à illustrer des poésies de ses amis poètes. Pour Jean Hillion, les amis, leur admiration et leur confiance se rangent en 2 groupes, selon l'importance, grand ou petite, qu'il accorde à la question « Pour qui travaille-t-on ?» Et comme pour se justifier, troublé par l'assurance et l'insouciance de ses proches, il ajoute « Ce désir de m'adresser aux passants qui me tourmentent, est-ce une faiblesse? Un goût personnel? Une nécessité tardive méconnue? En tout cas, je ne saurais y résister. » Un livre à lire, je vous en rappelle le titre. Hillion, pour qui travaille-t-on? Une lettre adressée à André Duloucher. Été, automne 1952, Paris en 2024, aux éditions Claire Poulain.
Merci Agnès. Eh bien, Jean Hillion, profitons-en. Livre, catalogue, exposition. Je trouve que c'est très bien d'avoir profité de ce moment culturel assez, assez intense. On change, on bouge. Et pour alimenter le débat, ben, on va se retrouver à Nantes. Nous avons un moment assez intéressant là, dans un livre qui s'appelle « Nantes, ville révoltée, une contre-visite de la cité des dieux » aux éditions Divergence en 2024. D'entrée de jeu, le collectif du média Contre-Attaque, anciennement nommé « Nantes révoltée », nous prévient. Le livre que nous avons entre les mains n'est pas un manuel d'histoire ou un guide touristique, mais bien une dérive dans la ville de Nantes. Quel livre ? Un petit ouvrage jaune avec écrit en titre et sous-titre « Nantes, ville révoltée, une contre-visite de la cité des Ducs », publié cette année chez Divergence. Donc, qu'est-ce que Contre-Attaque ? Un média en ligne, créé en 2012, une revue papier depuis 2017. Et ce média propose une information indépendante et gratuite au service des mobilisations en cours. Fin de citation. Pour nous guider dans cette ville, à la dynamique exubérante depuis des décennies, une certaine Claude, fille de résistant. Elle a été de toutes les batailles depuis sa jeunesse, elle a 90 ans, et dit avoir croisé les routes de syndicalistes, de bandits, de révoltés, de toutes les générations. Elle va nous accompagner dans le temps et l'espace, rappelant les luttes, la répression dans un environnement urbain qui se boboïse, un peu comme dans nos nombreuses villes, et le Nantes populaire laisse la place aux bien-pensants. des grèves insurrectionnelles d'après-guerre au récent débordement des cortèges de tête de la Commune de mai 68, aux journées fabuleuses contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, la ville se démarque depuis plusieurs décennies par sa capacité à renverser l'ordre, à multiplier les mutineries malgré toutes les tentatives des bureaucrates, des policiers, des urbanistes pour rétablir l'ordre. Fin de citation. Voilà ce que vous allez découvrir dans ce livre, comment cette ville existe. Un signe ? Bah oui, une évolution. Nantes était une ville d'eau. Mais pour qui se promène dans ses rues, les bras de l'Erdre, une des rivières qui alimentait Nantes, bien ses bras sont comblés. Des espaces transparents remplacent les secteurs populaires. Les pouvoirs publics nettoient leur ville après avoir développé les autoroutes en centre-ville. Nous connaissons ça dans, malheureusement, un certain nombre de communes françaises. Et pourtant, grâce à Claude, nous revivons une histoire des luttes de 1789 à nos jours, 1830, 1848, les petites révolutions, l'affaire Sacco-Vanzetti, les grèves de 1936, mai 68, les gilets jaunes. Et oui, la ville ne s'assoupit pas. Les moyens et les moments d'action les plus récents sont relatés avec brio et dynamisme. La présentation de la commune de Nantes, dont les paysans soutiennent les ouvriers, est passionnante. Plus ancien dans le temps, mais toujours actuel dans les immeubles de la bourgeoisie et sa richesse discrète, l'esclavagisme. On pourrait dire que les immigrés vivent une forme d'exploitation ressemblante. Je profite pour signaler l'exposition permanente tout à fait intéressante au musée des Ducs de Bretagne à Nantes. Vous avez plusieurs salles qui sont consacrées à l'état, à justement cette esclavagisme. La ville évolue, le port est quasiment mort. Tout est fini ? Non. Car la fin de l'ouvrage énonce une liste de revendications pour le jour où la commune de Nantes serait de nouveau proclamée. Allez à Nantes et vous ne la verrez plus sous le même regard. Nantes, une ville révoltée. Je rappelle les coordonnées. Contre-attaque, Nantes, ville révoltée, une contre-visite de la cité des Ducs. Édition Divergence 2024. Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés. Vous retrouverez leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Communes de Paris. Je viens de l'évoquer en introduction de l'émission. Et tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la célèbre librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous pouvez aussi retrouvez certains commentaires sur notre page Facebook au fil des pages et sur la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Et en attendant notre invité, je rappelle Isabelle Filicci qui va nous parler du livre sur l'anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale, je voudrais vous dire deux mots du dernier numéro du Monde Libertaire. Monde Libertaire, 64 pages, particulièrement riche. Bon, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Ben, on va trouver notamment un compte-rendu du congrès de la Fédération anarchiste avec les motions adoptées contre la guerre, sur le sport, sur la situation sociale en Kanaky, et puis un soutien de texte, de soutien au lycée autogéré de Paris. La rubrique « Terrain de lutte » et notamment les manifestations du 1er mai sont particulièrement développées. Et en ce qui concerne les livres, puisqu'après tout, on est dans au fil des pages, on est quand même un peu là pour les livres. Eh bien, je signale un article assez dense, deux pages, consacré aux mémoires d'une féministe intégrale, les mémoires de Madeleine Pelletier, publié chez Folio Histoire. Alors c'est bien parce que Folio Histoire, c'est pas une collection très chère, c'est une collection de poche. Et surtout, sur le fond, c'est vraiment tout à fait passionnant. Vous vous rappelez qu'il y avait eu la lecture de certains textes de Madeleine Pelletier par Malika Charlemagne, Sandrine Malika Charlemagne, à Publico. Bon, donc, à reprendre les mémoires d'une féministe intégrale, Madeleine Pelletier, chez Folio Histoire. Et puis, un dossier particulièrement important sur un monsieur, un camarade, que nous aimons beaucoup, Michel Ragon, nous l'aimons beaucoup dans cette émission, Michel Ragon, alors, plusieurs témoignages, des interviews qui étaient publiées dans le Monde Libertaire, et puis une très belle bibliographie, ce qui veut dire que pour les personnes qui veulent découvrir Michel Ragon, la partie vendéenne de Michel Ragon, la partie anarchiste aussi, avec notamment La Voix Libertaire qu'il avait publiée dans la collection Terre Humaine, ou encore la célèbre La Mémoire des Vaincus. Eh bien, là, c'est vraiment très bien, le livre. Et puis, vous avez la biographie, mais nous avions déjà parlé de cette biographie. Et puis, quelques notes de lecture, mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et je crois que nous avons Isabelle Felici au téléphone, tu peux nous la mettre à l'antenne, s'il te plaît. Allô, Isabelle ?
Oui.
Oui, bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Alors, je crois que vous êtes un peu fatiguée.
Juste un peu enrhumée. Excusez-moi, bon. Je vais avoir une voix un petit peu cassée.
Bon, bah écoutez, on va essayer. Tenez bon. Alors, Isabelle, vous êtes professeure en études italiennes à l'Université Paul Valéry de Montpellier III. Nous avions eu déjà le plaisir de vous recevoir à l'antenne le 27 septembre 2023, car vous aviez réuni une équipe de spécialistes de l'anarchisme et de Georges Brassens pour réaliser le livre « Brassens anarchiste ».
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons évoquer le petit dernier, « Anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale, 1860-1920 », que vous avez co-dirigé avec Constantino Paonessa, et il est publié aux éditions Atelier de Création Libertaire. Mais en réalité, bon, on dit 1920, mais j'ai quand même le sentiment qu'on déborde un peu sur les années 30, notamment quand on parle des anarchistes espagnols à un moment.
Alors, oui, vous avez raison, on déborde un petit peu, mais disons que quand même le cœur du livre, c'est fin 19e, début 20e.
Ouais. Alors, pourquoi ce livre d'abord et que regroupe-t-il ?
Eh bien, avec Costantino, que je représente ici, disons, on va dire que je suis sa voix française, même s'il sait très bien le français, on a préparé ensemble l'interview. Donc, nous avions monté tout un colloque qui devait se tenir à l'Université de Louvain, et c'était prévu en avril 2020, et d'étranges personnes ont eu la drôle d'idée de nous empêcher de nous déplacer librement. Je pense que ça évoque quelques souvenirs pour vous. Donc on a repoussé une première fois. Tout était prêt, hein, les programmes, etc. Enfin, je vous passe le détail. Donc on a repoussé une première fois, puis il y a eu une deuxième vague de restrictions. Donc on s'est dit que, eh bien, pour éviter de perdre trop de personnes en cours de route, on allait passer directement à la phase ouvrage, quitte à refaire ensuite des échanges en public avec les contributeurs. Donc voilà qui regroupe, eh bien, des personnes qui, pas toutes, mais enfin qui étaient prévues pour participer à ce colloque sur l'anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale. Et puis, on n'a pas récupéré tout le monde, mais on a récupéré d'autres personnes qui ont bien voulu participer à l'ouvrage. Voilà, donc c'est
alors,
un
des
acte...
Historiens, des historiens, des sociologues, des quoi
qui, oui, qui... alors, oui, surtout des historiens, des gens qui, comme moi, sont plutôt en études... Moi, je suis en études italiennes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on déborde souvent sur les questions liées à l'histoire. Mais surtout des historiens, oui, vous avez raison. Vous voulez que je vous les présente un par un ?
Ah, peut-être pas tous, mais ils sont tous italiens, ils sont tous...
Alors non, pas du tout. Là, justement, on a ouvert à plus largement aux questions liées à l'anarchisme en Méditerranée. Donc, il y a, y a juste une personne, en fait, qui est italien. Il y a des Français, dont deux, il y a des Français. Il y a, je vous avoue, je ne connais pas la biographie de tout le monde. D'ailleurs, je ne les connais pas tous personnellement, puisque, manque de peau, on n'a pas pu se rencontrer. Il y a des personnes qui sont arabophones, qui parlent plusieurs langues. Il y a des Français, puisque vous avez vu, on va quand même dans un vaste territoire, de l'Espagne à tout à fait l'est de la Méditerranée.
Enfin, on retrouve bien l'esprit de la Méditerranée. Je crois que c'était Brodel qui disait la Méditerranée, les rivages de la Méditerranée rapprochent les peuples au lieu de les séparer. C'est vrai, quand on est en Méditerranée, on se retrouve bien dans cette... on est un peu partout chez nous, non ?
Oui. Enfin, moi, je vous avoue que je ne suis pas spécialiste de tous les endroits qui sont évoqués dans l'ouvrage, hein, puisque mon rôle d'éditrice, c'est plutôt Constantine qui s'occupe de cette partie sud et orientale de la Méditerranée. Vous le savez peut-être, moi, j'ai plutôt été vers le côté transatlantique. Enfin, quoique, j'ai travaillé un petit peu sur la Tunisie aussi. En tout cas, oui, bien sûr, on ne peut pas parler d'anarchisme sans parler aussi de D'ailleurs, de quoi peut-on parler sans inclure aussi la rive sud de la Méditerranée, en effet.
Ce secteur géographique et cette période, j'ai l'impression, mais je ne suis pas un grand spécialiste, j'ai l'impression que les publications sont assez rares et on parle plus des migrations transocéaniques que de ces relations au sein de la Méditerranée. Je me trompe ou pas ?
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai répondu, tout en n'étant pas vraiment spécialiste de cette zone géographique, c'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation de Constantino qui a eu l'idée de cet ouvrage en français, du colloque, de l'ouvrage en français, justement parce que, alors il y a pas mal de publications, sans doute en anglais, surtout, et en particulier sur l'Égypte. Mais vous savez, c'est compliqué parce qu'il faut quand même faire un gros travail linguistique. D'ailleurs, ça a été un gros travail aussi pour nous, puisque là, on a eu quand même des choses en russe, en espagnol, en italien, en anglais, en arabe. Bon, je vous rassure, moi, je ne parle pas toutes ces langues, ni ne peux traduire à partir de toutes ces langues, mais ça vous donne un petit peu une idée de tout le travail qu'il a fallu faire aussi avec les différentes... personnes qui ont contribué, qui n'ont pas non plus tout le français comme langue principale. Donc ça vous donne une petite idée des efforts qu'il faut faire pour être vraiment inclusif, si vous voulez, et tenir compte de toutes ces réalités. D'ailleurs, on n'a pas réussi non plus à atteindre l'exhaustivité. Disons que c'est un état des lieux et des pistes qu'on espère voir certaines personnes, et nous aussi d'ailleurs, suivre pour la suite.
Oui, c'est vrai que c'est un travail énorme qui a été réalisé là. Et vous mentionnez le travail des chercheurs qui considèrent que le mouvement anarchiste s'adapte à l'histoire transnationale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, le transnational, bon, on a tout un paragraphe dans l'introduction. Disons que, pour simplifier, on s'est mis à beaucoup utiliser ce mot à partir des années 90. Il y a en particulier une sociologue qui a fait tout un travail sur les Haïtiens et la façon dont leur économie de survie était encore en quelque sorte basée sur le fait, sur les immigrés haïtiens aux États-Unis, sur le fait que justement ils vivaient à travers les frontières entre Haïti et les États-Unis. Donc disons qu'il y a eu un petit moment où c'est à la mode, c'est encore un petit peu à la mode. Ce qui est très bien, c'est l'idée de dépasser le national pour justement montrer comment à travers les frontières on peut améliorer renforcer une réflexion. Alors en même temps, c'est pas une nouveauté absolue, puisque quand on a travaillé avant que ce soit la mode sur l'anarchisme et l'immigration, on aborde forcément cette approche-là, mais en tout cas, c'est une perspective qui a pas mal intéressé des jeunes chercheurs. Dans notre cas, si vous voulez, en même temps, on a un petit peu aussi des, si vous lisez l'introduction, des petites remarques, on va dire gentiment critiques, parce que comme ça a été un peu une mode, certains se sont mis à faire du transnational pour faire du transnational, mais en même temps, en l'occurrence, ça, c'est vraiment très important pour cette partie de la Méditerranée. Constantine, vous en parlerez beaucoup mieux, en particulier à cause de ce qu'on appelle le régime des capitulations, qui, je vous avoue que moi, ça a été une découverte grâce à lui. En fait, on sait assez peu que dans ces zones colonisées, en fait, les personnes, comment dire, il y avait un système, ça s'appelle d'extraterritorialité juridique, ce qui fait que quand vous étiez, par exemple, italien en Égypte, eh bien, vous n'étiez pas soumis aux mêmes lois que les autochtones, mais vous étiez soumis aux lois de votre pays. Donc, ça fait qu'il y avait un système de privilèges qui change. Vous parliez tout à l'heure de migration transocéanique, c'est pour ça que c'est important de situer ce transnational quand même dans un endroit bien particulier, en particulier à cause justement de ce régime des capitulations.
Alors, donc c'est pour cette raison qu'on pourrait considérer que la Méditerranée retrouve une centralité aujourd'hui, ben, dans votre histoire, hein, à ce moment-là, 1860-1920.
Oui, ben c'est important oui, c'est important d'en parler. Alors, cette centralité, vous parliez de Brodel tout à l'heure, je crois que ce qui est intéressant de citer aussi, c'est que il a été pas mal critiqué ces temps-ci, en particulier par une chercheuse qui est à la Sorbonne, je crois, et qui travaille sur le Moyen-Âge et sur l'islam, et qui montre comment Brodel, en fait, tout en ayant la bonne idée de mettre la Méditerranée au centre, avait quand même une vision très réductrice, en particulier de certaines parties de... certaines rives, finalement, et en particulier tout ce qu'on peut appeler la Méditerranée islamique. Et donc, oui, c'est important de faire... En tout cas, ce qu'on voit à cette époque, c'est que ça circule énormément et que les échanges se font dans tous les sens. Peut-être qu'on peut donner un exemple pour interpeller vraiment les auditeurs et les peut-être leur donner envie de lire. Par exemple, bon, maintenant, on a beaucoup de clandestins qui viennent chez nous, mais à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui quittaient, par exemple, l'Italie en bateau pour arriver clandestinement en Tunisie. Donc, ça peut interpeller quand même, étant donné les...
Oui, et puis, on a deux parcours. On peut prendre deux parcours d'un anarchiste assez connu en France, Amilcar Cipriani, et l'autre, beaucoup moins, Florido Maitucci. C'est... qu'est-ce qui se passe? Cipriani, on le connaît comme étant proche de Garibaldi, on le connaît comme étant proche de Florence, mais il n'a pas fait que ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ces gens qui circulent dans toute la Méditerranée, c'est vrai?
Mais oui, alors là, c'est vrai, vous avez raison de mettre d'ailleurs, ils sont tous les deux dans la première partie du volume qu'on a appelé déplacement. Il y en a un qui est très connu, l'autre qui est pas du tout connu. Ce qu'il faut souligner pour Amilcar Cipriani, c'est que, Serena Canzaroli, la personne qui nous a proposé cet article, met très justement l'accent sur des éléments moins connus de son parcours. Vous l'avez dit, hein, c'est un soldat permanent, il a été garibaldien, il a participé à la Commune, il a été en Nouvelle-Calédonie, il a été en prison. Enfin. Mais ce qui est moins connu, c'est que justement pendant qu'il était en Égypte, il a commis des crimes.
Oui.
Et en particulier, en gros, qui n'ont jamais été... j'ai noté les noms de ces personnes, Mustafa Salek et Ali El Nagar, parce que c'est des gens qu'on a oubliés complètement. On dit que vaguement, il s'est défendu parce qu'on voulait l'attraper. Mais enfin, il n'a jamais... si vous voulez, c'était des Arabes. Et donc, c'était moins important, même pour un anarchiste, que s'il avait tué je ne sais qui. Ça, je le dis de manière un petit peu crue.
Oui.
Mais ça nous donne une bonne idée des ambiguïtés des anarchistes à ce propos-là, Et d'autant plus que bon, il a aussi participé, ce Tubriani, à des guerres en Grèce, dans une période où le nationalisme reprend, prend de grandes, beaucoup de vigueur, et d'ailleurs il s'est beaucoup opposé à Malatesta sur ce sujet. Donc, voilà. Donc, et l'opposé, si vous voulez, c'est un autre parcours intéressant aussi parce qu'il est pas du tout connu, ce Floredo Matteucci. L'auteur Thomas Beugnier a fait un gros travail d'archives, et ce qui permet de mettre en relief cet exil actif. Mais là, il est un peu plus jeune, hein, il a une quinzaine d'années de moins, donc il n'a pas le parcours garibaldien, etc. En revanche, ce qu'on voit bien en commun dans tous les deux, c'est encore une fois cette importance de la Méditerranée dans leur parcours.
Et puis après, celui-ci va partir en Argentine.
Voilà, il part en Argentine après des vicissitudes, des expulsions. Enfin, c'était pas toujours de gaieté de cœur, hein, qu'il passait d'un pays à l'autre. Oui. Souvent, c'était pour échapper à des répressions, des séjours en prison, etc.
Alors, c'est intéressant aussi les cartes que vous insérez dans le livre, qui révèle une démarche politique, et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que on passe d'une rive à l'autre, quoi.
Oui, ben, alors les cartes, évidemment, ça permet de visualiser les séjours, les parcours des personnes, ça permet de comme on l'a dit tout à l'heure, de visualiser aussi cette centralité de la Méditerranée, et finalement cette facilité qu'il y a à la traverser, sauf si évidemment on met des obstacles administratifs comme on le fait encore aujourd'hui.
Alors on parlait de la Tunisie, c'est un pays que vous mettez en valeur. L'influence anarchiste a été importante en Tunisie. Comment ça se passait? Il y a une lutte syndicale, la presse
Alors en Tunisie, alors on le met en valeur, ben, il y a un article de Wael Bari, qui d'ailleurs l'auteur d'une thèse qui va bientôt être soutenue à l'Université de Montpellier, donc nous a donné une partie de sa thèse en cours pour cet article sur la Tunisie, en effet. Alors c'est beaucoup lié à la présence des Italiens, qui étaient très nombreuses en Tunisie, et au sein de cette présence italienne, il y avait aussi beaucoup d'anarchistes qui, en effet, ont participé à l'expansion d'un mouvement ouvrier, qui ont une influence sur le syndicalisme, et peut-être même, disons, de façon indirecte, y compris sur l'émancipation de la population locale.
Mmh. Un autre chapitre évoque Alexandrie. Alors, d'ailleurs, on a le port en couverture du livre, hein. C'est un des refuges pour les révolutionnaires russes, notamment ceux de 1905-1907. Et puis, il y a cette affaire des marins russes qui sont arrêtés. C'est un symbole de la solidarité internationale, ça, non?
Oui. Oui, alors, je me permets une petite remarque sur la couverture, parce que je suis vraiment très contente de cette couverture, et d'ailleurs, je remercie les éditeurs, l'Atelier de Création Libertaire, pour... je vous avoue qu'on a eu une petite discussion, parce que Constantine et moi, on voulait des personnes, mais on n'avait pas de photos de groupe, et puis on nous a proposé une carte qui nous a pas enchantés, donc, puisque c'était la Méditerranée, à un moment, je crois que j'ai dit, mais si on mettait la mer, et là, visiblement, la recherche a été très, très... Je suis très, très contente vraiment de la photo qui met beaucoup en valeur cet ouvrage. Donc oui, alors Alexandrie, je vous avoue, là, c'est un endroit de la planète que je ne connais pas, les relations entre la Russie et Alexandrie, mais que j'ai découvert avec grand intérêt dans le travail de Rim Naguib, en fait, il y a deux affaires, hein. Vous avez vu, il y a une affaire en 1907 et une affaire en 1913, et donc où les Britanniques étaient déjà là à ce moment-là, hein. Et en fait, à cause de ce régime des capitulations dont on a parlé tout à l'heure, et donc de cette extraterritorialité juridique, en fait, on a renvoyé les Russes être jugés chez eux, et ce système des capitulations, en quelque sorte, a permis de contourner le droit international qui normalement protège les réfugiés politiques. Et vous avez raison, il y a toute une solidarité internationale qui s'est mise en place, ce que montre très bien Rim dans son article, avec d'abord des manifestations sur place, avec des gens de partout. Alexandrie, vous imaginez qu'il y avait des gens de partout, mais aussi à l'étranger, dans la presse, etc.
Alors nous arrivons au Maroc. Et oui. Quel parcours pour les anarchistes espagnols l'exil, ils partent, ils viennent volontairement ou ils s'exilent? Que se passe-t-il et que font-ils sur place au Maroc? Est-ce qu'ils défendent la cause des Marocains et des Rifains?
Alors le Maroc, comme vous le savez sûrement, ça a été aussi une colonie espagnole.
Eh oui.
Donc il y a un mouvement de, tout simplement, d'immigration vers le Maroc, comme il y a eu pour les Italiens en Tunisie, il y a eu pour l'Espagne des Espagnols vers le Maroc, parmi lesquels aussi des anarchistes. Et c'est là qu'effectivement on va jusque dans les années dans les années 30, puisque donc là on a un article de Laura Galliane qui en fait passe en revue d'abord cette première émigration. Une émigration, un flux migratoire au sein duquel il y a aussi des anarchistes, mais c'est une période, elle le dit assez bien, très bien, même c'est une période assez mal connue. Elle parle en s'appuyant sur un ouvrage d'un Athénée libertaire qui est né à Tétouan, mais vraiment, on sait qu'il s'est passé des choses, mais on a très très peu d'événements là-dessus. Puis il y a eu la guerre, ce qu'on a appelé la guerre du Rif, où la France a appuyé les Espagnols. Donc là, si vous voulez, la position des anarchistes, d'après ce que nous montre Laura Galliane, c'est que les Espagnols, en fait, utilisaient le Maroc surtout pour défendre les intérêts des soldats qu'on envoyait mourir là-bas comme des mouches, quoi. Donc c'était surtout une revendication. Il n'y avait pas vraiment de discours anticolonial, c'était vraiment pour défendre les Espagnols. Et puis par la suite, au moment de la guerre d'Espagne, il y a eu plusieurs tentatives aussi pour impliquer les Marocains contre les franquistes.
Oui. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une attitude ambiguë par rapport aux morts.
Oui, et entre guillemets, surtout, les morts, on va mettre, j'espère qu'on a bien mis partout d'ailleurs les guillemets à ce terme, oui, qui sonne un peu quand même son vieux colonialisme.
Et oui.
Parce que en même temps, alors la CNT, c'est ce que montre bien Laura Galliane, fait son autocritique en 1937, en montrant, il y a même une citation que je pourrais vous lire, qui essaye de regrouper une sorte de nationalisme arabe et la cause républicaine.
Oui.
Et puis surtout, il y a des stéréotypes qu'on retrouve, y compris dans la presse anarchiste en espagnol, contre... Alors, il y avait des Marocains, il y en avait dans des deux côtés, aussi bien chez les franquistes que dans les rangs républicains. Et malheureusement, en fait, c'est un peu les mêmes stéréotypes qu'on trouve... contre les Marocains des deux côtés, finalement. Et Laura Galliane cite un article de Martine Baxmeyer, et il se trouve que je l'avais entendu dans un colloque où il y avait beaucoup d'anarchistes à l'époque, et en 2012, et je vous avoue que ça avait fait quand même un peu de bruit dans le Landerneau, cette histoire d'anarchistes, on va dire, racistes, quoi. Il faut bien dire les choses comme une...
Oui, le texte, communication qui figure dans le livre est assez éclairante, oui.
C'est assez éclairant à ce propos, voilà. Mm-hmm. Et c'est bien le terme ambigu que vous utilisiez qu'il faut... d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de discours colonial, anticolonialiste. Souvent, on veut quand même civiliser ces gens, même si c'est pour les émanciper. Vous voyez, ça arrive beaucoup plus tard.
Ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est une thématique qu'on va retrouver même dans toute la gauche française, institutionnelle comme non institutionnelle. SFIO, même le PC, etc. Ça viendra plus tard.
La lutte
anticolonialiste. Oui, tout à fait. C'est vraiment. C'est un état d'esprit, j'allais dire, européen, en quelque sorte.
Ben, c'est ça, et c'est bien l'intérêt de ce renouveau thématique, parce qu'on... il faut quand même aussi savoir sortir les squelettes du placard, en quelque sorte.
Oui. C'est pour ça que l'histoire, c'est toujours un objet d'étude et c'est passionnant. Il y a aussi un objet d'étude qui est tout à fait passionnant d'un de vos collègues, là, c'est Giorgio Sacchetti, qui mène toute une réflexion sur l'exilé politique.
Oui, alors, donc on a mis l'article de Giorgio Sacchetti en conclusion. Bon, Giorgio Sacchetti, c'est un historien de l'anarchisme, et disons qu'il a eu un rôle pionnier, puisque il y a plusieurs années, il avait déjà lancé cette proposition d'étude comparée entre la Tunisie et l'Égypte. C'est intéressant parce qu'il y a, si vous voulez, sont deux pays colonisés, l'un par la France, l'autre par le Royaume-Uni, et puis il y a une forte communauté, en particulier italienne, ces différences aussi dans l'application du régime des capitulations, puisque la France abolit le régime des capitulations en Tunisie en 1881, alors que en Égypte, ça reste jusque dans les années 30, je crois. Alors, sur le discours, oui, sur l'exilé politique, en particulier, il prend... une autre figure, il s'appuie en particulier sur une autre figure qui est d'un autre personnage dont on aurait pu aussi visualiser le parcours en Méditerranée, c'est le prénom m'échappe, je crois que c'est Romolo Garbati, qui a été à la fois en Tunisie et en Égypte, et je pense que, pour répondre vraiment directement à votre question sur l'exil politique, c'est que en fait on met en avant ce terme d'exilé politique souvent de façon, c'est ce que George discute justement, de façon un peu, on va dire, condescendante par rapport aux immigrés économiques, alors qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Malatesta à Londres, il faisait l'électricien, était électricien pour gagner sa vie. Donc si vous voulez, la coupure, et souvent les gens migraient, on dit qu'ils émigraient de façon économique, mais c'est difficile de couper vraiment les raisons économiques des raisons politiques.
Oui, chez les militants, c'est les deux, et on voit ça même chez les communards, etc.
Pour les militants, et aussi pour les gens, si vous voulez, faire ces catégories, ce serait un petit peu faire l'exil des catégories A, politique, et puis les autres qui...
les sous-produits.
Qui seraient là pour faire moins nombre. Donc moi, je suis... Et je pense que l'article de George le montre bien aussi. Je suis vraiment contre cette classification, comme si être exilé, c'était plus noble que d'être émigré. En fait, ils avaient souvent les mêmes problématiques. D'abord pour apprendre une nouvelle langue, pour trouver un travail, même si c'était des intellectuels, le fait de devoir changer de langue, des fois, ça pouvait compliquer les choses aussi, parce qu'on ne peut pas faire le même travail dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe que cette division, disons, souvent un peu simpliste, quoi.
D'accord. Alors vous avez encore, je suis sûr là, parce que vous avez encore des projets d'articles, de livres, c'est pas possible, Isabelle, vous en avez autre chose là.
Oui.
Oui. Ah, je savais bien.
Pardon, vous voyez là, vous commencez à me faire tousser rien que de penser à tout le travail qui m'attend.
Voilà.
Écoutez, là j'en ai un qui est en train de se terminer, mais c'est sur la littérature italienne et les femmes et la migration, mais je pense pas que ça intéresse vraiment particulièrement vos auditeurs.
Ça pourrait intéresser l'émission qui va suivre et qui s'appelle Femmes libres, où Hélène et son équipe travaillent sur tout ce qui est relatif aux femmes, aux luttes des femmes, à la place des femmes. Si, au contraire, ça pourrait intéresser.
Ça va sortir en septembre. Sinon, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois quand on a parlé de Brassens, mais j'ai un gros projet sur la presse anarchiste en italien, publié en France et dans les d'autres aires francophones, dont la Belgique et la Suisse et la Tunisie, dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en suis surtout à la phase des articles et à la mise à jour d'une bibliographie qui est en ligne, qui s'appelle Le Bettini, Donc, écoutez, je ne sais pas, je vous enverrai l'annonce pour l'ouvrage sur les femmes, si ça vous intéresse.
Ben voilà, avec plaisir. Eh bien, merci pour cet échange. Je vais arrêter ce moment de supplice, parce que vous allez commencer à tousser et à étouffer. Ça m'embêterait beaucoup. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau dès qu'un nouvel ouvrage sera publié. Merci, Isabelle.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Frédéric, nous avons le temps de passer une chanson anarchiste pour clore cet échange, et ce sera Addio Lugano Bella. C'est une chanson anarchiste écrite par Piero Gori en 1895. Gori était un avocat et un militant anarchiste qui avait été accusé d'être l'instigateur de l'assassinat du président français Sadi Carnot. Il a été arrêté et il a écrit un chant qu'il avait intitulé Le chant des anarchistes expulsés, et qui deviendra Adieu ma belle Lugano, Addio Lugano Bella. La légende veut qu'elle ait été chantée pour la première fois sur le quai de la gare de Lugano au moment même de son expulsion en train. Frédéric, on peut y aller? Allons-y.
Terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cor. E partono cantando con la speranza in cor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo incatenati al par dei malfattori, eppur la nostra idea è solo idea d'amore, eppur la nostra idea è solo idea d'amore. In faccia all'avvenire, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Scacciati senza tregua, andremo di terra in terra a predicare la pace. La guerra agli oppressori, la pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressori. Helvezia è il tuo governo, siamo da lui si rende, un popolo gagliardo, le tradizioni offende. La leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne di cinesi, cavalieri erranti sono trascinati al gol,
Je voulais vous présenter, avant que Dominique nous rejoigne pour un de ses romans, Les romans de la vie, je voulais vous parler d'un livre qui vient de sortir chez Le Cavalier Bleu, un livre de notre ami Philippe Pelletier, Figure de l'anarchisme. Alors vous retrouverez une présentation, ma modeste présentation, dans la rubrique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Je vais la sortir dimanche. Et là, Philippe Pelletier, lui, nous présente 22 militants, 22 théoriciens, 22 individus, hommes, femmes, qui représentent, selon lui, des concepts, des combats, des mythes, mais qui sont aussi concrètement en ligne. Et par exemple, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que, évidemment, nous avons Proudhon, nous avons Bakounine, ça, c'est les incontournables, mais nous avons aussi Malatesta, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle Felici, mais il y a aussi des femmes. Et Louise Reclus Duménil, la sœur des frères Reclus, il y a Galina Macno, on connaît Nestor Macno, mais on a aussi Galina Macno. Alors c'est intéressant parce que Philippe Pelletier contrebalance cette image d'une Galina traîtresse par rapport à Macno, etc. Or, il y avait un lien entre les deux. Bon, une vie de couple, mais un lien entre les deux, et c'est tout à fait intéressant. Vous avez aussi la petite japonaise Ito Noé qui sera assassinée par le gouvernement japonais. Ça permet de découvrir aussi dans le monde entier que l'anarchisme avait prise et qui avait une diffusion. Alors, on a parlé de l'Argentine, on a parlé de l'Italie, évidemment, mais il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi les autres pays. Enfin, dernier point, je mentionne le livre de Pierre Salmon, Un antifascisme de combat, publié aux éditions du Détour en 2024, là aussi, et c'est notre ami Hugues du groupe Commune de Paris qui présente ce livre. Nous arrivons au troisième temps de l'émission et Dominique nous a rejoint. Allô Dominique ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, les romans de la vie, Dominique, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Un auteur que je ne connais pas du tout, François-Henri Désirable ?
Désirable.
Désirable, hein ? Ah, oui.
Oui. Bon. Alors, il a écrit L'usure d'un monde, publié chez Gallimard. Donc c'est un auteur, il est jeune, il est né en 1987 à Amiens. Il est habitué, il a fait trois bouquins précédents, une fois sur Évariste Galois, une autre fois sur Monsieur Piekielny, qui est un voisin de Romain Gary, qui est évoqué dans La promesse de l'aube, et une autre fois sur Verlaine, dans Mon maître et mon vainqueur, titre inspiré d'un vers de ce poète.
Alors, quelle est la source d'inspiration de ce livre de François-Henri Désirable ?
Oui, alors cette fois-ci, il marchait sur les traces de son modèle Nicolas Bouvier, donc l'écrivain voyageur, dont le livre L'usage du monde, publié en 1963, est devenu une référence pour la littérature de voyage.
Oui.
Je pense que tu l'as lu.
Oui, bien sûr, oui.
Alors, il relate, je rappelle, hein, Nicolas Bouvier relatait le périple en Fiat de Topolino dans les années 50, de Belgrade à Kaboul, en passant par l'Iran, avec Thierry Vernet. Mmh. Pour la petite histoire, ce livre a été publié à compte d'auteur.
Bon. Quand on sait le succès qu'il aura après.
Oui, oui. Alors, Désirat va faire sienne le précepte de Nicolas Bouvier, qui disait « En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises. Et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. » Et le but est de revenir avec des yeux différents. Alors, Désirat va jouer avec les syllabes entre l'usure du monde et l'usage du monde, un monde entre, puisque ça va se passer en Iran, il va jouer entre Khamenei et Khomeini. Hein. Donc, il y a aussi des petits jeux de mots. Hein.
Alors, il va partir seul, l'auteur va partir seul en Iran ?
Oui, il décide fin 2022 de partir seul, alors que le pays connaît une répression terrible à la suite de la mort de Mahsa Amini. Pourtant, le ministère des Affaires étrangères le décourage. Hein. Il lui dit, il est formellement déconseillé, vous m'entendez, formellement déconseillé de se rendre en Iran. Ceux qui encore sont rentrés et ceux qui ne rentrent pas, c'est qu'ils sont en prison.
Oui, bah dis donc. Oui, cela dit, oui, je comprends la thèse. Oui, c'est... Alors, bah, il va rester longtemps quand même là-bas.
Cinq semaines avant d'être expulsé par les gardiens de la Révolution. Mais pendant cinq semaines, il va sillonner l'Iran. Alors les paysages naturels, on peut changer hein, par rapport à Nicolas Bouvier. Mais alors les villes et la vie quotidienne ne sont plus du tout les mêmes. Il va aller au Kurdistan, dans des villes qui font encore rêver, comme Ispahan. Mmh. Il a mis une carte hein, de ses déplacements. Il va découvrir la beauté de la place immense d'Ispahan, les jardins, lorsqu'on sait que le mot perse veut dire paradis. Hein, le chat d'Iran lui avait préféré Iran. Mmh. Et puis les bazars, où il peut pas résister, il achète beaucoup dans les bazars. Les mausolées, les édifices, dont Persépolis, la cité de Darius, mise à feu par Alexandre. Et puis, bon, il nous rappelle aussi quelques pages de Pierre Loti hein, sur ces villes.
Et alors, finalement, c'est presque un guide qui nous invite. Oui. Alors, peut-être pas à y aller. Enfin, moi, je serais très prudent par rapport à ça. Mais en tout cas, on a des descriptions qui doivent être très belles.
Oui, oui, très belles et actuelles surtout. Mm-hmm. Mais c'est surtout les habitants qu'il va rencontrer.
Alors, que va-t-il rencontrer, oui.
Alors, il lui raconte que des habitants qui aspirent tous à la chute de l'Ayatollah. C'est sa vision, hein, parce que quand on voit parfois là-bas, il y a encore du soutien. Alors, il se plaigne hein, de vivre depuis 43 ans la terreur. Mmh. Il rappelle d'ailleurs que la torture, dans son livre, que la torture y est une tradition, depuis le père du chat, et même il remonte jusqu'en 1387, quand Tamerlan fit couper 40 000 têtes pour célébrer la prise d'Ispahan.
40 000, j'aurais.
Oui. Alors, la torture est encore actuelle. Hein. On comparait très facilement devant un tribunal révolutionnaire qui se conclut très souvent par le verdict inimitié à l'égard de Dieu et souvent la même issue, la mort.
J'aime cette formule, inimitié à l'égard de Dieu. Oui, ça, c'est assez joli, ça. Ouais. Et il y a...
Alors,
qu'en est-il de l'anti-américanisme ?
Alors, les jeunes ne sont absolument pas anti-américanisés, puisque au contraire, ils écoutent de la musique américaine, ils regardent les films américains. Ils n'accordent pas trop de place à la religion, mais ils ont soif de liberté. Alors, l'économie est à bout de souffle, hein, y a une inflation galopante, une monnaie en perdition. Mais partout, alors il dit qu'il entend jour et nuit un même cri, c'est Marc Bar Dictator, dictateur.
Bah.
Bon, le problème, c'est que quelqu'un lui dit vous avez d'un côté un peuple déterminé à chasser le pouvoir, mais de l'autre un régime corrompu déterminé à s'y maintenir. Donc,
oui, ça peut durer longtemps.
Oui, oui. Mais il dit que c'est un peuple courageux. Hein. Il est fasciné par le courage de ce peuple. Malgré les enlèvements, les emprisonnements. Et c'est aussi un peuple accueillant et raffiné, très cultivé. Pour lui, c'est le plus grand peuple de poètes du monde. La poésie tient une grande place. Les gens, les guides lui lisent des extraits de poètes. Omar Khayyam, à Fès. Il parle aussi d'une grande poétesse, Farouk Farrokhzad, qu'un livre vient de ressusciter. J'ai pêché dans le plaisir d'Amnous Chalmani. Mmh. Et puis rappelons aussi qu'il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma iranien, hein, dont oui. un qui vient d'obtenir le prix spécial du jury, Mohammad oui. Rasoulov. Mmh.
Oui.
Donc c'est un peuple qui a appris à vivre sous la dictature, qui s'arrange avec leur religion. Alors c'est assez amusant, il raconte les marches éphémères. Ça peut durer de 1 heure à 10 ans, qui permettent d'avoir des liaisons passagères.
Ah pour les hommes, oui, pour les hommes, hein, quand même. Hein.
Oui.
Ouais. Alors, c'est un livre éprouvant, fascinant. Allô ?
On se coupe quand même. Il y a des passages mélancoliques, des passages durs, mais il y a aussi des passages plus légers, voire drôles. Alors, l'auteur s'interroge sur les notions de courage et de peur, et on sourit même dans certaines auberges, parce qu'il croise aussi des Européens un peu déjantés, des Afghans en transit, un médecin au Pullman, un illettré, mais qui arrive quand même à écrire. Donc, et il raconte surtout aussi, il rencontre une jeune fille qui lui demande d'aller la filmer en haut d'une montagne. Et arrivée en haut de la montagne, elle crie « Mort au dictateur, mère d'Omola et femme, vie et liberté ». Alors, il a très peur parce que s'il se fait prendre avec ce film, évidemment, ce sera la prison directe. Hein.
Oui. Ouais, ça. Alors, on termine sur une critique de, de l'attitude oui. de certaines influenceuses occidentales.
Oui, je vous lis un passage. Chez nous en Europe, on voyait des influenceuses lifestyle apporter leur soutien au peuple iranien dans des stories d'Instagram pour nous vanter les mérites d'un rouge à lèvres ou d'une crème hydratante, code promotionnel à l'appui. Et puis, il y avait celles qui se coupaient une mèche de cheveux en solidarité avec les femmes. Investissement minimal, pensait-il, hein, pour rendement maximal. Ça demandait temps, ça ne présentait aucun risque, ça donnait bonne conscience. Voilà. Et donc il se dit, bon, est-ce qu'il faut faire étalage de sa compassion bon. Alors il termine en disant, je me disais qu'il y avait quelque chose de vulgaire et d'indécent à se parer publiquement d'indignation vertueuse.
Bah.
Voilà.
Alors, un livre intéressant sur un sujet d'actualité, sur un pays qui nous, enfin, que nous observons avec attention, effectivement. Oui. Dernier livre de la saison que tu nous présenteras donc oui. fin juin.
Oui, alors c'est pas un livre récent, mais il est drôlement d'actualité. C'est Stéphane Zweig, Souvenir d'un Européen, en livre de poche, après les élections européennes, on vient de s'interroger sur ce qu'il a écrit.
Très bien. Eh bien, merci Dominique. On se retrouve donc à la fin du mois. Frédéric,
au revoir.
Frédéric, sans transition, je vais présenter, puisqu'on a un petit peu de retard, un livre qui m'a fasciné à un moment de rêve, Monstrueuse féerie. Monstrueuse féerie, c'est un titre curieux, une forme d'oxymore. Et reprenons la présentation de la collection publiée chez Fables Fertiles. La collection L'heure des contes propose tout autant des contes qui trompent, pour peu qu'ils sonnent quelques heures nouvelles du fait d'audacieuses intuitions, et que des contes vrais qui instruisent l'imaginaire. Avec cet opuscule, nous sommes gâtés. Comme le souligne la préfacière, Laurent Pépin, l'auteur, emprunte la voix du conte pour dire des moments bizarres dans lesquels le narrateur fut englué, pour dire cette étrange folie venue d'un autre temps. Il explore les gesticulations de monstres antérieurs à lui et exploite les articulations de monuments postérieurs à lui dans une mise en scène très élaborée, faite de flashbacks retentissants, de parenthèses ouvertes sur le monde de la psychiatrie. Son scénario est parfait. Je confirme l'approche et l'appréciation de la préfacière. Vous tournez les pages. Les monstres, lesquels ? Vous verrez. Une scène, un malaise s'instaure, un regard d'effroi. La psychiatrie ? À lire. L'esprit du père, il est intense, à Chanteloup. Le petit Pousset est le narrateur. Les rêves, les cauchemars, le livre ne se raconte pas, il se lit. Et le poids du verbe chez les monuments ? Qui sont ces monuments, justement ? Vous verrez, le poids du verbe chez ces individus qui ont dû décider en urgence d'un truc inaugural afin de pouvoir se tenir debout face aux vivants. Phrase mystérieuse, oui. Qui sont les monuments ? La relation poétique avec les patients permet, je vous donne une piste, permet au narrateur de rencontrer une elfe. C'est un moment d'une très belle poésie. Et puis, les cafards qui sortent de la bouche du père ou qui rentrent, lisez, vous retrouvez des pages dignes d'Horacio Quiroga dans son livre « Contes d'amour, de folie et de mort ». Oui, ces pages-là sont très fortes. Plus loin, vous retrouvez de la poésie liée à l'eau, à la pluie, c'est très beau. Et la mise en page est très bien travaillée. On se perd un peu dans ce livre. Qui cherche qui ? Les monstres ? L'auteur ? Et puis la fin du livre, mais est-ce une fin ? Je vous donne les deux dernières phrases. Je serai vivant, et alors peut-être elle reviendra. Comme le sentiment que le livre n'est pas fini. Laurent Pépin, Monstrueuse féerie, conte aux éditions Fables Fertiles en 2022. Frédéric, est-ce que nous pouvons passer désormais la chanson de Boris Vian ?
Elle Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement, et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané. Elle s'est inscrite aux racines pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un mastard, un costaud bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé.
Voilà un moment d'histoire. Maintenant, dernière étape de notre émission. Allez, un petit peu de nostalgie là, les années 67-68. Nous sommes à Champigny, une famille juive d'Afrique du Nord, d'Algérie. On se retrouve souvent autour d'un couscous dans ce livre. La chaleur humaine du repas familial. On est communiste, on parle politique. On s'engueule. On est dans les années 67-68. Hein. C'est donc on parle politique pendant le repas. Oui, ça, je me rappelle très bien de ça. Alors, bon, on ne lit pas Le Monde parce que Le Monde est un journal bourgeois. Donc, on ne le lit pas. On lit l'UMA. On a des militants dévoués, dévoués corps et âme. Et nous allons suivre Simon. Simon que semble bien connaître l'auteur, Gilles Benaïch, dans son livre 68, publié aux éditions du Canoë. Les portraits sont croqués en quelques mots. Ça fait tendrement sourire. Simon est en Hippocagne, au lycée Paul Valéry, dans le 12e arrondissement. Il est inscrit au PC, bah, comme son oncle, hein, oui, en gros. Suit la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes. Un clin d'œil bien actuel, d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. À qui la terre ? Ben, on voit que le débat n'a pas bougé. Et vous vivrez les manifestations contre la guerre au Vietnam, les altercations avec les militants d'Occident, militants d'extrême droite, mais aussi les cours, les conseils de lecture. On lit beaucoup chez les militants à cette époque. Et les interrogations à partir des livres d'Althusser, les débats pro-soviétiques et pro-chinois. D'accord, ça paraît un peu étonnant. On se dit, tiens, on est vraiment dans un autre temps. Oui, mais c'était le temps de ces années-là, je vous ai dit, un petit air de nostalgie. Et Simon finit par se faire exclure de la section du PC de Champigny, une grande scène où le sectarisme rivalise avec l'absurdité. Bah, les stalles, quoi, bon, c'est assez étonnant. Et puis, vous êtes à Sancier. Vous êtes à Sancier avec les stands des sensibilités de gauche qui s'installent en bas. Et on croise même un vendeur du Monde libertaire. Bon, c'est amusant. Vous êtes dans le Quartier Latin. Ces cafés, ces cinémas, ces tendances politiques, les débats sans fin, un autre monde, un autre temps. Que rentrait vivant la plume de Gilles Benaïch. Depuis 68, eh bien, les choses vont bien évidemment changer, mais en ce début de 68, vous assistez à une conférence d'Althusser, une autre de Jean Toussaint des Antilles, sur l'épistémologie mathématique. J'ai même du mal à le dire. Un orateur face à son cahier toujours fermé. Un phénomène, tout dans la tête, passionnant. Chaque mois de mai 68 est décrit et fait monter la pression. Mais attention, c'est la vie d'un jeune étudiant qui découvre les événements. Un peu comme un vrai témoignage et pas un historien qui prend la hauteur, qui sait tout sur tout, parce que c'est vraiment non, là, il découvre le monde. Et puis ce jeune étudiant découvre aussi les sentiments, les joies, les inquiétudes. Ah, ça pète à Nanterre en avril 68. Eh oui, avril 68. Vous n'avez pas l'impression d'entendre comme une chanson de Léo Ferré. Tiens, vous vivrez les jours de mai à la Sorbonne et cette nuit du 13 mai. Moi, je m'en rappelle très bien de cette nuit du 13 mai. On l'écoutait sur Europe 1 pour savoir ce qui allait se passer, pour savoir s'il allait pas y avoir des choses encore plus violentes. Bon, une révolution? Ah, surtout pas pour la CGT. Crasu qui négocie en sous-main avec Jacques Chirac, dans un petit appartement très discret. Ah, toute l'illusion de la Révolution, ça bouillonne au Quartier Latin. Quelques slogans, tenez, moi j'aime beaucoup. Plus je fais la Révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. Et plus je fais l'amour, et plus j'ai envie de faire la Révolution. C'est quand même autre chose que les slogans qu'on a aujourd'hui pour les prochaines élections. Ou encore, supprimons toutes les aliénations. Voilà, hein, puis on en connaît d'autres. Hein, bon. La CGT veille. Certes, Georges Ségui est sifflé par les ouvriers de la régie Renault lorsqu'il vient rendre compte des négociations dans le grand hall sur l'île Seguin. Et oui, ça, c'est les souvenirs que j'ai vécu par mon père qui me racontait ce grand événement, parce que ça, on l'oublie, évidemment. La CGT préfère cacher que son secrétaire général a été sifflé par les travailleurs qui voulaient aller plus loin. Et puis, Massue, De Gaulle, la gigantesque manifestation et le reflux des grèves. Le 8 juin, la mort de Gilles Totin à Flins, de Pierre Bellot, un ouvrier de Peugeot, est tué à Sochaux le 11 juin, et le 14, je cite, « On sent la faim, c'est dans l'air. Quelque chose s'est passé, mais quelque chose est passé, c'est derrière nous. » Fin de citation. Et Simon découvre la vie, je cite, « J'allais avoir 20 ans, le plus bel âge de la vie. » Tiens, la première phrase au singulier, et non pas à la troisième, pour la première fois de tout le roman en deux volumes. Un roman d'apprentissage qui vous donne l'adresse du paradis, c'est quand même plutôt sympathique. Merci Gilles Benaïch, 68, aux éditions du Canoë en 2024. Eh bien, chers amis, c'est fini. Voilà, quelques livres que nous souhaitions vous présenter. Nous avons eu peur dans le début de l'émission sur la capacité à assurer. On a réussi à le faire très bien. Je suis content. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ces présentations. C'est fini donc pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. Et le mercredi 26 juin 2024, nous ne recevrons personne en particulier. C'est une émission de spécial roman, je dirais, et c'est une émission de rencontre. Et nous recevrons deux femmes, mais nous les recevrons par leur biographie. Nous recevrons l'immense chanteuse réaliste Fréhel, et nous recevrons, toujours par sa biographie, l'autrice de L'art de la joie. D'ici là, bonne lecture. Au fil des pages, je vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et nous laissons la parole à nos amis de Femmes Libres. À bientôt et au plaisir de partager.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau. regarde au blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles qui tombent froides sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
Nous étions seuls au monde dans ce bal populeux, et d'une seule main je prisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu, ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux, j'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom, j'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardines.
Se libère.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons
Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 24e émission de cette année 2024, émission féministe et anarchiste, pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour deux heures d'antenne de l'émission Femmes Libres, Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Et avec Hélène à l'animation. Bonsoir Hélène.
Voilà, et en compagnie de Marie-Jo.
Bonsoir.
Qui va nous faire sa tribune libre. Et en compagnie de notre invitée, Mademoiselle Martine.
Bonsoir.
Voilà. Donc, l'émission, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h30. Pour nous suivre, on peut nous suivre sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. Ça permet évidemment de réécouter les émissions, d'avoir le programme et quelques autres infos. Et puis, on peut nous suivre sur Facebook et Miss Cloud grâce à Sylvie. Parce que alors moi, je ne touche pas assez à ces instruments-là. Le programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Malheureusement, la chronique se tient tous les mercredis. La tribune libre, le micro-féminisme. Ensuite, avec notre invitée, Mademoiselle Martine, le temps du féminin. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. On démarre par féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
en Tunisie,
domestique.
Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
49, c'est le chiffre censé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2024, chiffre à minima. Et on dit bien féminicide par compagnon ou ex-compagnon, ce qui ne prend pas en compte tous les autres meurtres de femmes ou les autres meurtres d'hommes aussi. Depuis le 1er janvier 2016, les militantes féministes anonymes du collectif